Bonjour à tous, bonsoir. C'est Kerry du blog Dans le Débamos. Je lance à partir de maintenant une petite série de podcasts que je vais essayer de faire les plus courts possibles. C'est pas gagné. Pour aborder des points d'actualité et puis aussi des interrogations sur les mécanismes en cours, des réflexions et éventuellement de partager des pistes de solutions hein, qui pourraient nous permettre de sortir de tout ça. Le premier que je vais faire, ce sera sur la question des abus de pouvoir et du harcèlement institutionnalisé, légitimé par les autorités et même organisé hein, par les autorités. On se rappelle de Macron qui voulait emmerder les non-vaccinés et qui expliquait à Véran « on les aura ces connards ». On est dans un harcèlement qui utilise les moyens de l'État pour cibler des citoyens en groupe ou en particulier, dans le but de les faire taire, en fait, tout simplement, comme au bon vieux temps. Le problème avec ce harcèlement-là, qui est particulièrement virulent et diversifié et inventif depuis quelques mois et depuis quelques semaines, et qui se généralise sur absolument tous les lanceurs d'alerte d'une manière ou d'une autre, c'est que une fois que cette première ligne de personnes qui ont osé parler et interroger sera réduite au silence, qui va s'exprimer ? Qui va poser des limites à ce harcèlement et qui va interroger le narratif officiel, puisque l'objectif de tout ça, c'est qu'il n'y ait pas de paroles divergentes dans l'espace public et dans l'opinion publique. Alors pourquoi parler de ce sujet-là ? Parce que là, on vient de subir 2 ans de matraquage et c'est pas fini, puisqu'on le voit avec la guerre en Ukraine, les choses continue en termes de matraquage propagandesque, de mensonges et de contre-vérités assénées à longueur de journée. Tout ça, c'est basé sur des méthodes d'ingénierie sociale. Ça permet de faire croire à plein de choses, hein, la dangerosité du virus, l'efficacité de produits qu'on a appelés vaccins mais qui n'en sont pas. Ça permet aussi de faire accepter la guerre en Ukraine comme une évidence et même les restrictions qui étaient censées toucher la Russie mais qui aujourd'hui touchent les citoyens français. Alors ces processus sont inquiétants. Et il se double en plus d'une censure qui se renforce et qui est plus forte qu'on ne l'a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui commence à utiliser tous les moyens, bon, excepté l'atteinte directe à la vie, mais quand même tous les moyens de l'État pour faire taire ceux qui dérangent, qui sont attaqués de toutes parts en réalité, hein, par les moyens officiels et puis aussi par des individus qui peuvent être qualifiés de garde-chiourme du système, parce qu'ils sont dans cette idéologie aussi finalement. On constate, et on l'a écrit d'ailleurs récemment, la semaine dernière je crois, dans un article commun, les individus ne sont pas épargnés par le harcèlement qui se systématise. On a des lanceurs d'alerte parmi les rares hein, qui ont essayé de dénoncer le narratif, de dénoncer les mesures en cours, qui sont victimes aujourd'hui d'attaques professionnelles, financières, administratives, policières. Hein. Ce sont des représailles, c'est de l'intimidation pour faire taire les victimes de ces attaques et tous ceux aussi qui pourraient avoir l'idée de réagir ou même de poser des questions. Donc c'est assez intéressant dans ce contexte de regarder de plus près ce que disent ceux qui observent et qui analysent ces processus en cours. Et on va prendre 5 exemples pour ça. Alors tout d'abord, on va reprendre les paroles et le témoignage de Vera Charave, qui est une spécialiste de l'industrie biomédicale et qui a fondé une organisation de défense de l'humain dans le cadre des recherches, et qui est aussi une survivante de l'Holocauste, et qui a un message intéressant à transmettre sur ce parallèle des méthodes utilisées par les nazis et par les gestionnaires de la crise Covid. On va aussi reprendre le témoignage de Mathias Desmet, qui est un psychologue belge, qui a écrit récemment « Psychologie du totalitarisme », où il analyse les mécanismes qui font que les masses adhèrent à un message toxique en réalité. On va reprendre aussi ce que disait récemment Michael Yeadon, qui est un ancien de l'industrie pharmaceutique, puisqu'il était vice-président de Pfizer en Grande-Bretagne, et qui alerte lui aussi les populations sur ce qui est en train de se passer. On va reprendre ce que disait également Ariane Biran, qui elle dénonce depuis des années les processus de harcèlement institutionnalisé, hein, qui est psychologue elle aussi, philosophe, et qui dénonce depuis le début du Covid une dérive totalitaire qui aujourd'hui est perçue par de plus en plus de monde. Et enfin, on va reprendre les propos de Stephen Sefton, qui est un journaliste du Nicaragua qui observe avec un œil acéré les mécanismes en cours en Occident, mécanismes que subissent aussi les pays moins favorisés dont il est habitant. On va commencer donc avec Vera Sharav, qui est, comme on l'a dit, spécialiste de l'industrie biomédicale et observatrice des dérives dans ce domaine-là depuis pas mal d'années, qui a donné une interview récemment, en mars ou avril 2022, à Ariane Biran et au journal France Soir, dans lequel elle a pas mal alerté hein, sur ce qu'elle constatait. Donc elle évoque un groupe d'oligarques mondiaux, impitoyables et assoiffés de pouvoir, composés de Big Pharma, des banques centrales, des technologies de biosurveillance, qui ont capturé les gouvernements de la même manière que les nazis grâce à de grandes corporations industrielles. Elle explique que la pandémie a été utilisée pour faire renoncer les populations à leurs droits constitutionnels. Elle explique qu'on diabolise certaines personnes comme étant des ennemis de l'État, les juifs dans le cas des nazis, les résistants au pass et au vaccin plus récemment. Elle explique que les gens sont conditionnés hein, à obéir aux règles édictées par le gouvernement, quelles qu'elles soient, de manière quasiment aveugle en fait. Hein. Ces scènes, explique Vera Sharav, sont des rappels douloureux au prélude de l'Holocauste. Donc elle, ça lui rappelait les moments qui ont précédé le grand délire en fait dans les années 40. Quoi. Elle dit que les élites mondiales sont déterminées à imposer ce contrôle qui passe par différents outils utilisés pendant le Covid, qui n'est selon elle pas naturel et vient d'un laboratoire comme effectivement pas mal d'éléments le montrent. Elle parle de toutes ces mesures hallucinantes qui ont servi en fait à marquer le contrôle progressif des populations, donc les masques, les couvre-feux, la censure, les vaccins, hein, ou appelés comme tels, le pass sanitaire devenu vaccinal, qui semble être un des objectifs principaux permettant un suivi des citoyens 7 jours sur 7, de leurs déplacements, de leurs paiements, de leurs contacts, en gros, finalement, de tracer leur vie sociale, quoi. Et ces mesures coercitives se doublent de mesures de rétorsion contre ceux qui débordent. Elle rappelait dans cette interview-là, donc on se rappelle qu'à l'époque, il y avait eu le convoi de la liberté au Canada, et elle expliquait que les mesures de rétorsion contre les camionneurs étaient juste hallucinantes. Elle parlait de placement de leurs enfants, de blocage de leurs comptes, de poursuites judiciaires évidemment, une vraie traque par les renseignements et par tout l'appareil d'État en réalité, quoi. Elle dit que tout ça, en fait, ça permet de contrôler ceux qui obéissent et ceux qui s'écartent des règles et de les identifier dans un groupe déterminé, en fait. Hein. L'objectif, c'est que les gens ne puissent pas faire de choix en conscience, qu'ils soient forcés de décider comme l'État veut qu'ils décident et que les gens ne puissent pas exercer leur libre arbitre. Elle s'étonne de la vitesse à laquelle les droits individuels de la population et le code de Nuremberg avec ont été supprimés, complètement occultés avec cette histoire de pandémie. Elle s'étonne de l'irrationalité des mesures prises par les gouvernements occidentaux, une liste sans fin qui montre l'aspect particulièrement pervers de cette gestion sanitaire. Derrière tout ça, il y a l'idéologie eugéniste, dit-elle, dont le nazisme a été une des déclinaisons. Ils ont recommencé les expérimentations sans consentement sur l'homme, même s'ils ont fini par mettre le processus en stand-by quelques mois, assez récemment d'ailleurs. On se doute tout de même que ça va pas tarder à revenir avec de nouvelles épidémies qu'on nous prépare, ou même le Covid qui risque de revenir vu l'impact des vaccins sur les gens. Elle observe que les maladies et la protection sanitaire de la population, c'est, dit-elle, exactement la méthode utilisée par les nazis pour éliminer les juifs de la place publique. Dans cette interview, Vera Sharav observe que le pouvoir judiciaire a été inefficace, neutralisé. Le parallèle pourtant évident entre la gestion et l'instrumentalisation du Covid et l'Holocauste doit être caché à la population hypnotisée par une propagande constante qui répète en boucle le même récit. Pour elle, c'est ce qui devrait mettre la puce à l'oreille de chacun. Il existe toujours des opinions divergentes. Pourquoi une seule parole s'exprimerait-elle dans l'espace public et même privé ? Elle parle du rôle des médias qui sont en fait les suppôts de ce système-là, hein, qui contribuent à embrigader la population avec un grand zèle en général. Ils contribuent en fait à planter le décor qui sert le narratif de peur. Et elle explique aussi comment est opéré le formatage des journalistes. Hein. Elle explique que Bill Gates finance depuis une vingtaine d'années des écoles de journalisme. Et c'est vrai qu'il finance aussi pas mal de médias. On sait que le Monde a touché plus de 4 millions d'euros en 3-4 ans. Il finance des organismes de fact-checking ou des partenariats avec les médias pour faire du fact-checking. Il finance aussi plusieurs organisations de journalistes d'investigation dites indépendantes, etc. C'est juste pour donner un exemple. Elle explique que la pensée unique s'est imposée pendant que la censure effaçait les paroles divergentes. Elle dit que les enfants sont particulièrement ciblés pour être conditionnés et, entre guillemets, hein, vaccinés, et que cela aussi doit alerter les gens. Enfin, l'idéologie de ceux qui organisent ce désastre est eugéniste, ce qui se décline aujourd'hui avec le transhumanisme pour avoir des humains améliorés, et l'objectif est ce nouvel ordre mondial dont on nous a tellement parlé ces dernières années. Mathias de Smet est psychologue clinicien, chercheur, et il a écrit récemment « Psychologie du totalitarisme » dans lequel il explique le mécanisme de formation de masse qui est en fait la soumission des populations à un diktat imposé avec vigueur par les gouvernements. Il montre en fait comment les messages anxiogènes répétés ont mis les gens en condition d'accepter des mesures incohérentes pendant le Covid, des règles qui changeaient si souvent que personne ne pouvait plus les connaître, et apparemment même pas la plupart des autorités, enfin des représentants des autorités. Il explique donc dans cet article récent, je cite, « Dès la première semaine de crise en mars 2020, j'ai publié un article d'opinion intitulé « La peur du virus est plus dangereuse que le virus lui-même ». J'avais analysé les statistiques et les modèles mathématiques sur lesquels reposait le récit du coronavirus et j'ai immédiatement vu qu'ils surestimaient tous dramatiquement la dangerosité du virus. Quelques mois plus tard, à la fin du mois de mai 2020, cette impression avait été confirmée sans l'ombre d'un doute. Dans aucun pays, y compris ceux qui ne sont pas verrouillés, le virus n'a fait autant de victimes que les modèles le prévoyaient. La Suède en est peut-être le meilleur exemple. Selon les modèles, au moins 60 000 personnes seraient mortes si le pays ne s'était pas verrouillé. Il ne l'a pas fait et seulement 6 000 personnes sont mortes. Bien que j'ai essayé avec d'autres d'attirer l'attention de la société sur cette situation, cela n'a pas eu beaucoup d'effet. Les gens ont continué à suivre le récit. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me concentrer sur autre chose, à savoir sur les processus psychologiques qui étaient à l'œuvre dans la société et qui pouvaient expliquer comment les gens pouvaient devenir si radicalement aveugles et continuer à adhérer à un récit si profondément absurde. Il m'a fallu quelques mois pour comprendre que ce qu'il se passait dans la société était un processus mondial de formation de masse. Alors, dans cet article et dans son livre, Mathias Desmet décrit un processus qu'il appelle la formation de masse, qui fonctionne avec trois critères principaux qu'il a identifiés dans les différents cas de figure. Alors, tout d'abord, c'est un type spécifique de formation de groupe qui rend les gens radicalement aveugles à tout ce qui va à l'encontre de ce en quoi croit le groupe. De cette façon, il considère les croyances les plus absurdes comme allant de soi. La deuxième caractéristique d'un individu sous l'emprise de la formation de masse, c'est qu'il devient prêt à sacrifier radicalement son intérêt individuel au profit de la collectivité. Et troisièmement, les individus en formation de masse deviennent rapidement intolérants aux voix dissonantes. Au stade ultime de la formation de masse, écrit-il, ils vont typiquement commettre des atrocités envers ceux qui ne vont pas dans le sens des masses. Et ce qui est encore plus caractéristique, ils le feront comme si c'était leur devoir éthique. Donc c'est un processus qui doit être constamment soutenu par un endoctrinement et une propagande intensif, diffusée donc forcément par les médias de masse. Il explique, donc là je vais de nouveau le citer, « Ce type d'État a un impact extrêmement destructeur sur la population car il ne contrôle pas seulement l'espace public et politique, comme le font les dictatures classiques, mais aussi l'espace privé. Il peut le faire parce qu'il dispose d'une énorme police secrète, cette partie de la population qui est sous l'emprise de la formation de masse et qui croit fanatiquement aux récits distribués par l'élite à travers les médias de masse. De cette façon, le totalitarisme est toujours fondé sur un pacte diabolique entre les masses et l'élite, voire Arendt, les origines du totalitarisme. La crise du coronavirus n'est pas tombée du ciel, écrit Desmet. Elle s'inscrit dans une série de réponses sociétales de plus en plus désespérées et autodestructrices à des objets de peur. Terroristes, réchauffement climatique, coronavirus. Chaque fois qu'un nouvel objet de peur surgit dans la société, il n'y a qu'une seule réponse, un contrôle accru. Or, les êtres humains ne peuvent tolérer qu'un certain degré de contrôle. Le contrôle coercitif engendre la peur et la peur engendre davantage de contrôle coercitif. De cette façon, la société est victime d'un cercle vicieux qui mène inévitablement au totalitarisme, c'est-à-dire un contrôle gouvernemental extrême, et ça se termine par la destruction radicale de l'intégrité psychologique et physique des êtres humains. Et puis, il y a aussi Michael Yeadon qui récemment a écrit un article que j'ai traduit et mis sur Coroinfo au sujet des manipulations du gouvernement, enfin des gouvernements en l'occurrence. Donc, c'est un ancien vice-président de Pfizer qui a très vite dénoncé les magouilles de Big Pharma dans le cadre du Covid, qui a dénoncé les incohérences dans le développement du vaccin et qui fait partie de ceux qui tentent de mettre en place des procédures pour que les responsables de tout ça soient jugés. Donc, il explique que les gouvernements occidentaux n'agissent pas dans l'intérêt général, contrairement à ce que croient les gens, et c'est là-dessus qu'il insiste beaucoup dans cet article-là. Il dit que beaucoup de gens croient malgré tout que les gouvernements travaillent dans notre intérêt, et que c'est un barrage qui empêche de penser la réalité et qui nous empêche collectivement d'avancer vers des vraies solutions. Il explique, entre guillemets, « Si vous adoptez expérimentalement la position selon laquelle notre gouvernement s'efforce de nous nuire, de démanteler la société moderne et d'asservir tous les peuples dans un monde totalitaire contrôlé numériquement, tout s'explique, rien n'est superflu. » Il rappelle que les médias de masse sont entre les mains d'une poignée de multinationales dans les pays occidentaux et qu'ils défendent les intérêts de leurs propriétaires et de leurs actionnaires, c'est-à-dire qu'ils mentent sans arrêt et omettent de parler des vrais sujets et de poser les vraies questions. Là, je vais de nouveau le citer. Il écrit « Beaucoup se sont demandé pourquoi les gens ne résistaient pas aux tyrans dans le passé. C'est en partie dû à la peur. Mais c'est plus que cela. » C'est que les gens normaux, comme vous et moi, ne peuvent tout simplement pas imaginer des êtres si mauvais. » Nous avons confiance en l'humanité et nous le devons. La plupart des gens sont bons. Peu sont vraiment terrifiants et horribles, mais certains le sont. C'est l'incapacité à croire ce qui se passe qui a vraiment empêché les gens de s'opposer quand ils le devaient, quand l'évidence était indubitable, mais n'avait pas encore atteint leur porte, leur famille. « Ils viennent pour vous et vos enfants », écrit Yidden. « Cela arrive de nouveau. Il y a de nombreuses preuves émergentes de planification patiente et à long terme, j'en suis vraiment désolée. » Il faut aussi parler d'Ariane Biran, qui est à la fois philosophe et psychologue, et qui s'exprime beaucoup ces derniers temps sur ce harcèlement organisé, dans le cadre de ce qu'elle appelle une dérive totalitaire, qui déjà est en train de tourner en persécution paranoïaque. C'est ce qu'elle dénonçait déjà dans un bouquin qui s'appelle Les Chroniques du totalitarisme, suivi de Psychopathologie du totalitarisme, qu'elle a rédigé pendant le Covid, et dans lequel elle analyse les mécanismes par lesquels on a contraint les populations à accepter n'importe quoi, finalement. Elle parle de dérives totalitaires, de pouvoirs maltraitants qui développent des discours changeants et paradoxaux. Par exemple, on dit qu'on soigne, mais on refuse les personnes âgées à l'hôpital et même on leur donne du Rivotril pour que ça se termine plus vite. On autorise le métro bondé, mais pas les concerts. On peut boire un verre debout, mais pas assis. On a des couvre-feux à 18h, comme si le Covid émergeait à cette heure-là de derrière les buissons. Voilà, tout ça, ça faisait perdre leur repère aux gens. Ça les a déphasés. Le fait qu'ils aient été isolés pendant des mois d'entrée de jeu, avant de pouvoir échanger, de discuter entre eux sur comment ils allaient réagir, d'analyser même ce qui se passait, tout ça, ça a permis de les conditionner petit à petit. Elle explique que tout ça, c'est des procédés totalitaires qui sont basés sur l'articulation de la peur et que c'est en fait de l'ingénierie sociale. Elle dit que tout ça, c'est des processus, un système qui sont en train de se rigidifier. Et dans les chroniques du totalitarisme qu'elle a écrit en 2020, elle disait déjà que tout était en place pour la persécution paranoïaque. Et c'est bien ce qui se passe, on le constate, parce que derrière tout ça, c'est un processus pervers, avec un langage pervers, qui n'assume jamais les objectifs réels du pouvoir. Donc je vais vous lire un petit extrait de son livre. L'heure de la persécution paranoïaque a sonné. Les ennemis semblent désignés, mais ne nous y trompons pas, il ne faut jamais croire le langage de la perversion. Elle vous assure que si vous consentez à faire ce que vous ne souhaitez pas faire, alors vous serez tranquille et tout ira bien pour vous. Elle exige que vous renonciez à un petit bout de territoire de vous-même, puis, la boîte de Pandore étant ouverte, il vous sera toujours demandé plus et encore plus. C'est le fonctionnement même de l'emprise perverse, de la mise en esclavage psychique et physique. Alors peut-être qu'aujourd'hui, certains se rassurent en se disant que s'ils sont des citoyens obéissants, ils seront épargnés, puisque la vindicte désigne une catégorie d'individus en particulier dans un corps social désormais considéré malade et qu'il conviendrait d'amputer. C'est une erreur. Dans les systèmes harceleurs, tous ceux qui se soumettent docilement et font du zèle, espérant ainsi passer entre les gouttes, finissent par être persécutés puis exécutés à leur tour. Car la paranoïa est une folie résonante. Il faut entendre qu'elle n'a rien de rationnel et ne s'embarrasse pas de contradictions. Au diable la logique. La logique devient ce que l'angoisse psychotique exige. De la persécution, du sang, des morts, pour se calmer, toujours temporairement. Aussi, cela procède à l'arbitraire et par vagues. Tous les totalitarismes ont agi ainsi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'il est lancé, ce processus de harcèlement, de persécution paranoïaque, n'a pas de limite. C'est un outil, en fait, pour le pouvoir totalitaire, qui permet d'attaquer tout ce qui dépasse, de mettre les gens au pas, d'uniformiser la pensée pour mettre en œuvre son plan, d'uniformiser les comportements. Et elle explique un petit peu plus loin dans son livre que le harcèlement des lanceurs d'alerte et de ceux qui dérangent, c'est seulement la première phase, celle de la mise au pas par l'élimination des opposants. Mais, dit-elle, le déferlement totalitaire se déchaîne bien davantage ensuite. La décompensation paranoïaque devient aveugle et se cherche des ennemis potentiels, coupables en puissance et non en acte, puisqu'il n'y a plus d'opposants réels. Pour soumettre les masses, tous les moyens sont permis, en particulier celui de la terreur par l'arbitraire. Et on a de plus en plus l'impression qu'on tombe là-dedans, puisque l'État ne passe plus par des voies judiciaires pour faire taire les lanceurs d'alerte. Bon, là, on l'a vu pour les affiches du Conseil scientifique indépendant. Il est passé par les préfets, puisque la justice n'allait pas les empêcher. Et bien souvent, on a encore le droit qui défend les libertés, et le droit d'informer, le droit d'être informé, la liberté d'expression. Donc il y a quand même des barrages. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que fait l'État? Il passe outre, il mène des processus de harcèlement par d'autres biais. Ça va être des contrôles fiscaux, ça va être des enquêtes, des renseignements, ça va être mesures de rétorsion au niveau professionnel, ça va être des trolls en bande organisée qui sautent sur ces lanceurs d'alerte, et ainsi de suite. Et alors tout ça, c'est possible d'autant plus facilement que la population générale va être dans le déni de la réalité. Ils ne vont jamais affronter en face le fait que les gouvernements ont pu leur mentir, ont pu éventuellement les manipuler. Et de fait, ils vont se taire par rapport à ce harcèlement des lanceurs d'alerte, puisqu'ils vont croire, eux, de bonne foi, que finalement ces gens-là sont des dangers pour la société, puisqu'ils tiennent un discours qui est contraire à celui des autorités. Alors, Ariane Biran a donné une interview fin août à la chaîne Alliance Humaine, interview censurée en l'espace de 2 ou 3 jours sur YouTube, dans laquelle elle parlait de ce harcèlement, hein, outil du pouvoir totalitaire qui permet d'attaquer un petit peu tout ce qui dépasse, d'uniformiser la pensée et les comportements de la population. Elle explique dans cette interview qu'ils utilisent des chocs, si possible puissants et inattendus, si possible émanant de postures d'autorité, hein, comme des institutions, des journaux télé, des experts, et que ces messages sont répétés pour créer finalement une nouvelle normalité. L'objectif de tout ça, c'est la perte de lucidité et la perte d'esprit critique des individus dans le cadre d'un endoctrinement des masses. Les gens sont mis en fait dans des conditions où ils vont se soumettre. C'est ce qu'elle explique dans cet extrait.
Pourquoi on va harceler? Encore une fois, pour soumettre, pour obtenir de l'individu quelque chose contre son gré, qu'il n'aurait pas donné de lui-même. Donc, cette soumission, on veut l'obtenir par la contrainte. Donc, la contrainte, elle peut avoir plusieurs visages. La contrainte, ça peut être, on va utiliser de la manipulation, par exemple, on peut manipuler pour obtenir quelque chose de quelqu'un contre son gré. On peut lui faire peur, on peut le culpabiliser, on peut lui faire du chantage, on peut le séduire aussi. Lui dire, bah, attends, si tu fais ça, tu auras beaucoup d'argent, tu auras un gros contrat, etc. Donc, il y a plein de sous-technique pour réussir à faire en sorte que l'individu donne quelque chose qu'il n'aurait pas donné en d'autres circonstances. C'est en fait une violation de consentement. Il y a une technique qui fonctionne très bien, c'est le conflit de loyauté, c'est-à-dire mettre l'individu face à une situation où il a un choix impossible à faire. Est-ce qu'il choisit entre ses valeurs professionnelles ou sa déontologie ou ces moyens de subsistance. C'est un choix impossible. Et on voit bien que depuis plus de 2 ans, c'est ce que préconise le pouvoir dans nombreux pays. C'est un choix impossible. Ce sont des conflits de loyauté qui entraînent l'individu dans un sentiment de culpabilité. À partir du moment où vous avez fait croire, à partir du moment où vous avez fait peur à quelqu'un, vous avez la main dessus. À partir du moment où vous lui avez fait croire qu'il était coupable, vous avez la main dessus. À partir du moment où vous l'avez entraîné à lui devenir coupable parce que vous l'avez incité à aller faire des gestes ou à avoir des actions coupables, vous en faites ce que vous voulez, et même il vous défendra, puisqu'il est coupable avec vous. Donc, ce sont des méthodes mafieuses.
Et on va terminer avec Stephen Sefton, qui est ce journaliste nicaraguayen qui dénonce depuis pas mal d'années le despotisme occidental via une économie qui est complètement alignée sur les intérêts d'une certaine caste privilégiée en Occident. Il explique dans cet article paru dans un journal local au début qu'il serait temps que l'Occident se réveille et soit un petit peu plus solidaire de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire les révoltes, bon là c'est plutôt pour les questions de coût de la vie, mais c'est des révoltes qui sont, on va dire, chroniques et qui de toute façon en Amérique latine, en Afrique et même en Asie touchent généralement à des questions de démocratie. Et il explique qu'il serait temps qu'on regarde de plus près ce qui se passe chez les autres, qu'on sorte un petit peu de notre nombrilisme à ce niveau-là. Donc il explique qu'il y a un effondrement de la rationalité hein, dans nos médias, dans nos pays occidentaux, dans nos mondes politiques et forcément derrière dans toute la société. Hein. Cet effondrement de la rationalité, explique-t-il, est créé et entretenu par des médias et des universitaires soumis à ceux qui ont vraiment le pouvoir, c'est-à-dire ces oligarques occidentaux principalement. Il parle d'une guerre de classe, donc c'est une expression qu'il va falloir réintégrer rapidement, parce que effectivement c'est une guerre menée par les puissants qui siphonnent les richesses et qui, pour mieux les siphonner, ont besoin d'avilir les populations. Il dénonce cette guerre des classes qui est menée par ces oligarques et la marginalisation finalement et l'ostracisation de tous ceux qui osent contester ou interroger cette doxa. Il écrit « De plus en plus de personnes s'accordent à dire que les informations de toutes sortes dans les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et de leurs alliés du Pacifique sont déployées de manière écrasante pour servir les intérêts des oligarques occidentaux et des politiciens qui les représentent. Les médias, y compris les médias d'information et les ONG, les revues universitaires et scientifiques, ainsi que les institutions internationales, sont pratiquement tous intégrés dans l'offensive de guerre psychologique mondiale menée depuis longtemps par les classes dirigeantes occidentales. Chez eux, donc c'est-à-dire chez nous, ils travaillent sans relâche pour contrôler les perceptions et le comportement de la population de leur pays. À l'étranger, ils cherchent constamment à mobiliser l'opinion internationale contre des pays comme la Russie et la Chine, des gouvernements tels que ceux de la Syrie ou du Venezuela, des mouvements politiques comme le Hezbollah et même des individus comme Julian Assange qui leur résistent. Le principal objectif de ce vaste appareil de guerre psychologique est de créer de fausses croyances qui, avec le temps, se durcissent en faux souvenirs. Ce processus consolide le contrôle de la classe dirigeante au niveau national tout en facilitant ses crimes d'agression présents et futurs dans le monde. Les populations occidentales sont délibérément mal informées et induites en erreur par le biais de fausses représentations plausibles, de déformations flagrantes, d'omissions systématiques et de mensonges purs et simples. Les catégories d'informations telles que le journalisme, la recherche universitaire et scientifique, les enquêtes menées par les ONG ou les briefings des institutions internationales ont toutes été déformées, détournées et dévaluées par leur utilisation abusive afin de servir les intérêts nationaux et mondiaux des oligarchies occidentales. Il explique que les médias, même ceux qui se revendiquent progressistes ou très à gauche, comme on le voit avec certains sites qui attaquent aujourd'hui en particulier Ariane Biran, et la recherche universitaire aujourd'hui sont quasiment perdus, trop compromis dans ce système de mensonges et dans la défense des intérêts d'une classe ultra-minoritaire. Il constate qu'en Occident, la liberté d'expression est un leurre. Il écrit « Dans la vie publique occidentale, il est désormais interdit de comparer et de mettre en relief les versions concurrentes des événements qui contredisent l'idée reçue générale propagée par les gouvernements occidentaux et les organes d'information approuvés par les entreprises. » Il constate entre guillemets, l'abandon total de la rationalité par les sociétés occidentales et leurs dirigeants. L'un des principaux critères d'évaluation de la rationalité d'un individu ou d'une société est précisément sa capacité et sa confiance en soi lorsqu'il s'agit d'argumenter contre des arguments rivaux. Or, effectivement, là, on est bien obligé de constater que tout est fait pour éviter le débat, et c'est un vrai problème dans une société qui se veut démocratique ou approchante. Il est temps de conclure. Le totalitarisme ne se fait pas en un jour. Il est certain que nous continuons à y avancer. Le harcèlement devenu systématique des lanceurs d'alerte, des citoyens qui manifestent, des militants qui critiquent le pouvoir d'une manière ou d'une autre. On se rappelle de Notre-Dame-des-Landes, de Bure, du harcèlement policier de toute la région sous Macron. L'affaire de Tarnac aujourd'hui, hein, on se rappelle de cette histoire où Sarkozy avait accusé une bande de jeunes dans un village d'être des anarcho-autonomes terroristes. Et l'affaire a fini mais littéralement en eau de boudin après des années de harcèlement policier et des renseignements. Voilà. Finalement, l'affaire de Tarnac aujourd'hui, c'est tous les jours en France. Il faut que les gens soient bien conscients que c'est pas en se taisant et en se soumettant que ça va passer. Un pouvoir totalitaire n'a pas de limite et finit par détruire l'ensemble du corps social, dans un processus paranoïaque qu'on voit déjà à l'œuvre. Alors quelles sont les solutions, les pistes de solutions à ce stade? Si on écoute ces différents auteurs, il y en a quand même quelques-unes qui commencent à se dégager. Par exemple, Sefton salue le développement des médias alternatifs et citoyens qui, pour lui, sont le signe d'une indignation face à la tromperie permanente. Il faut, comme le rappellent Mathias Desmet et Ariane Biran, que les voix dissidentes s'expriment pour que le délire totalitaire soit moins puissant, pour qu'il soit un petit peu temporisé et pour que des limites, même faibles, existent. S'il n'y en a pas, on peut imaginer le pire avec ce genre de pouvoir en dérive. Pour Ariane Biran, c'est fondamental qu'on continue à s'exprimer. Le jour où ces discours disparaîtront, nous verrons le vrai visage du régime autoritaire, a-t-elle expliqué dans l'interview avec Alliance Humaine. Alors, comme solution, on peut aussi dégager le fait de développer partout où c'est possible cette parole citoyenne, qui est, selon Sefton, un défi populaire authentique et résilient au statu quo. C'est l'idée de se réapproprier l'espace public hein, derrière. Il y a aussi ne plus réagir aux stimuli des médias de masse, prendre de la hauteur, parce qu'on voit beaucoup en fait, de commentaires, d'énervements, de réactions par rapport aux propos de Macron, de Véran, de différentes personnes. C'est normal, c'est fait pour. Ils se nourrissent, ils vivent en instaurant cet état de peur, de colère, et surtout en mettant les gens complètement à côté de la plaque de même et des vraies questions à se poser et surtout des vraies solutions, des vrais leviers à actionner. Ils monopolisent l'attention et notre énergie en allant toujours plus loin comme ça dans leur délire, un délire qui est maintenant complètement déconnecté de la réalité. Et puis idéalement, bon, dans ce cas-là, la seule solution qu'on a à choisir, c'est de se retirer, c'est de dire stop, de dire je n'écoute plus ces médias-là. Alors on peut suivre de loin la réalité de ce qui se passe, mais ne plus s'intoxiquer avec ça, ne plus se polluer le cerveau avec ce bruit permanent. Alors il y a aussi maintenir le niveau de résistance et l'augmenter le plus possible dans tous les collectifs où c'est possible, parce qu'évidemment de toute façon c'est un rapport de force qui permet d'avancer. Sans rapport de force, bah, ils n'ont pas peur, ils ne lâchent rien et il ne se passe pas grand-chose à part des régressions sociales, des régressions économiques et compagnie. Alors il y a une chose aussi très importante, surtout dans une phase où la réalité n'est plus une valeur, où n'importe quelle opinion vaut des faits étayés, argumentés et réfléchis, c'est de toujours chercher à comprendre et à éclairer les mécanismes, qu'ils soient visibles ou pas, qui sont en cours. Il faut absolument ne pas renoncer à comprendre, même si ça peut faire mal à la tête, même si des fois on a l'impression, nous, de devenir complètement dingue parce qu'on ne comprend pas la logique. J'ai tendance à penser que si on ne la comprend pas, c'est que la logique est dissimulée. C'est qu'il y a une différence entre ce qu'on nous dit qu'on fait et ce qu'on fait réellement. Sinon, on ne serait pas en train de se poser autant de questions. Il faut aussi acter, comme le dit Mathias Desmet, l'échec du grand récit de notre société qui, entre guillemets, ignore les dimensions psychologiques, spirituelles et éthiques de l'être humain et qui a donc un effet dévastateur au niveau des relations humaines. Et enfin, toujours selon Desmet, la véritable tâche à laquelle nous sommes confrontés en tant qu'individus et en tant que société est d'envisager une nouvelle vision de l'humanité et du monde, c'est-à-dire pas celle que nous ont proposée ces élites dirigeantes qui ont tout perverti, et de trouver une nouvelle base pour notre identité, de formuler de nouveaux principes pour vivre ensemble avec les autres et de récupérer une capacité humaine utile, c'est-à-dire le discours de vérité.